VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du lundi 2 novembre 2015. Au sommaire ce soir...
Burundi, le pouvoir lance un nouvel ultimatum aux détenteurs d'armes à feu. En attendant, la violence s'intensifie, faisant craindre le spectre de la guerre civile.
Le Burundi est depuis plusieurs mois dans la guerre civile, hein, puisque le comportement de ceux qui justement devraient être la source de la paix sociale sont la source des problèmes.
Le journaliste et analyste Innocent Mouzi.
En Côte d'Ivoire et en Guinée, le pouvoir judiciaire confirme la réélection des deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Alpha Condé.
République centrafricaine, les élections sont-ils possibles avant fin 2015 ?
Devant la triste réalité que nous a produite l'autorité nationale des élections, nous nous sommes retrouvés devant un chronogramme anachronique.
L'homme politique centrafricain Joseph Bendunga.
Retour sur le crash d'un avion de ligne russe en Égypte. Les enquêteurs examinent toutes les pistes, mais déjà la compagnie en question écarte toute erreur de pilotage ou toute défaillance technique.
D'environ 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Au moins 3 personnes ont été tuées par balles ou égorgées et plus de 100 maisons incendiées et dimanche à Bangui au cours d'affrontements qui se poursuivent depuis plusieurs jours entre des musulmans et des miliciens anti-Balaka. C'est du moins ce que rapporte l'AFP, citant une source hospitalière. Les violences ont baissé d'un cran ce lundi, mais des tirs sporadiques étaient entendus autour du PK5, bastion des musulmans dans la capitale. La présidente intérimaire centrafricaine, Catherine Samba Panza, s'est exprimé sur la situation ce lundi. Nous l'écoutons.
Nous exhortons les forces internationales à une action vigoureuse afin que Bangui soit sanctuarisé à l'approche d'événements importants. La visite du pape et les élections doivent être vécues par les Centrafricains comme des événements unificateurs et refondateurs à vivre dans l'apaisement. Face aux dangers qui menacent la population, j'ai instruit nos forces de défense et de sécurité nationale de se joindre aux troupes internationales pour s'interposer entre les parties en conflit et frapper les récalcitrants qui persistent dans la voie de la violence.
Nous reviendrons sur la situation en Centrafrique, notamment la question électorale en seconde partie d'émission.
Au Burundi, alors que la violence s'intensifie dans la capitale et dans l'intérieur du pays, avec 2 corps découverts ce lundi matin dans 2 quartiers du nord et du sud de Bujumbura, le président Pierre Nkurunziza a donné un dernier ultimatum de 5 jours à ceux qui possèdent des armes pour les rendre. Sinon, la police et l'armée passeront à l'action contre les insurgés. Christophe Nkurunziza fait le point.
2 corps ont été retrouvés lundi matin dans le quartier de Kamenge au nord de Bujumbura et dans la zone de Musaga au sud. 2 femmes ont été également tuées dans un bistrot appelé WhatsApp dimanche soir dans les quartiers de Biza, tandis que 6 autres personnes ont été blessées quand des inconnus ont lancé des grenades dans ce bistrot de la 6e avenue, reconnue par la plupart des citadins. La violence est devenue grandissante ces derniers jours. Samedi, entre 1 et 16 personnes qui venaient d'un enterrement avaient trouvé la mort et d'autres blessés, selon des informations de la police et des habitants. 8 insurgés avaient été tués samedi, selon le porte-parole de l'armée à Nyabiraba en province de Bujumbura Oural. Le président burundais a, dans un message à la nation, indiqué que des mesures seront prises à l'encontre des insurgés qui ne veulent pas rendre les armes qui causent la désolation. Pierre Nkurunziza a donné 5 jours à la population pour remettre les armes et suivre un service civique de 2 semaines. Et les récalcitrants seront punis conformément à la loi. Une nouvelle loi sera mise sur pied très prochainement, a-t-il indiqué. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Suspension des actions de désobéissance civile au Congo-Brazzaville. Les 2 principales coalitions de l'opposition avaient appelé à des journées villes mortes tous les lundis, jeudi et vendredi pour protester contre les résultats du référendum du 25 octobre permettant au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Mais aujourd'hui, dans un souci d'apaisement et en vue de permettre la tenue du dialogue, disent-elles, elles ont décidé de faire machine arrière.
Même son cloche sur l'archipel tanzanien semi-autonome de Zanzibar, le chef de l'opposition a appelé au calme après avoir menacé en fin de semaine dernière de déclencher des manifestations si la commission électorale locale ne revenait pas sur sa décision d'annuler les récentes élections.
En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a officiellement proclamé la réélection du président sortant Alassane Ouattara pour un mandat de 5 ans. Idriss Fall.
Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel, a donc proclamé Alassane Dramane Ouattara élu dès le premier tour du scrutin du 25 octobre. Il a réalisé un score de 83,66%. La Cour a validé les chiffres déjà proclamés par la CEI sur les suffrages exprimés et le taux de participation de 52,86%. Cette confirmation de la plus haute instance judiciaire a une valeur symbolique très forte après les violences post-électorales de 2010-2011. M. Ouattara devrait être investi d'ici la mi-novembre. Pendant la campagne, il s'est engagé à faire reculer le chômage et continuer l'électrification du pays. Sur le plan politique, il a promis une réforme de la Constitution. Des élections législatives doivent avoir lieu dans les deux prochains mois, mais la date précise n'est pas encore annoncée.
Suite à la consécration de la victoire d'Alpha Condé par la Cour constitutionnelle de la Guinée, les Nations Unies appellent à l'unité et au dialogue en vue de préserver la stabilité dans le pays et garantir de bonnes élections locales l'an prochain. Le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a exhorté lundi à Dakar le président réélu à former un gouvernement de large consensus.
Monsieur Condé a rencontré l'opposant Sidya Touré le 23 octobre, mais les chefs de file de l'opposition, Sédou Diallo, continuent de rejeter ce que son parti appelle une mascarade électorale. Selon Amnesty International, au moins 13 personnes ont été tuées et environ 80 blessées dans les violences électorales en octobre en Guinée.
Dans le nord du Mali, les bouchers de Tombouctou ont manifesté ce lundi pour exprimer leur mécontentement. Ils se disent en effet victimes d'attaques répétées de la part de bandits armés. Ils ont rencontré le maire de la ville qui leur a promis de transmettre leurs doléances à qui de droit. Modibo Dembélé a joué notre confrère Abdoulaye Traoré de la radio Bouctou à Tombouctou.
Les bouchers lupaient les bœufs et ils font ça aux éleveurs. Bon, dernièrement, il y avait un éleveur qui a été attaché, donc on l'a amené tout comme bétail. Et donc les bouchers sont sortis aujourd'hui pour venir voir le gouverneur, ensuite le maire de la commune de Tombouctou, et pour protester, parce que pour eux, trop c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Et tout le temps, ils ont été dépouillés de leur propre argent. Donc aujourd'hui, c'est les animaux même, leur bétail, est volé maintenant par des hommes armés.
Quelle est l'atmosphère actuellement en ville après la protestation des bouchers?
Ils sont rentrés à la mairie, ils ont commencé à faire du tapage, ils ont voulu même casser les fenêtres. Les portes, que le maire a rencontré quelques-uns de leurs responsables avec lesquels il a discuté pour aller toucher qui des droits, soit le gouverneur ou le commandant des hommes.
Quelle peut être l'incidence de telle situation sur le processus de paix qui est en train d'être discuté actuellement?
Ça entache quand même le processus de paix parce que lorsqu'on a signé les accords, aujourd'hui, en tout cas, tous les mouvements doivent rester sur leur position initiale. Quand on voit l'armée qui respecte sa position, et jusque-là, il y a des bandits armés, ben, je ne sais pas, il y a des groupes armés qui ne respectent pas en réalité ces mots d'ordre. Je crois que vraiment ça pose énormément de problèmes.
Abdoulaye Traoré, journaliste de la radio Bouctou à Tombouctou.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Seul un facteur extérieur peut expliquer le crash de l'Airbus A321 qui s'est écrasé en Égypte samedi matin. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui la compagnie russe qui exploitait l'appareil, rejetant la possibilité d'une erreur de pilotage ou d'une défaillance technique. Jacques Aristide.
Les causes de la chute de l'avion demeurent mystérieuses, mais en Russie, les soupçons se sont rapidement orientés vers Metrojet, modeste compagnie charter qui fait figure de coupable, désignée et a dû monter au créneau pour défendre sa réputation. Les dirigeants de la compagnie aérienne sont catégoriques, leur avion était en excellent état, ils ne précisent pas toutefois de quel type d'action extérieure il pouvait s'agir. Alors que la branche égyptienne du groupe djihadiste, État islamique, a revendiqué la destruction de l'Airbus samedi, ce qui a rendu les autorités russes sceptiques. L'appareil s'est écrasé dans le Sinaï avant-hier, 23 minutes après son décollage de Sharm el-Sheikh vers Saint-Pétersbourg. La catastrophe la pire jamais connue par la Russie a fait 224 morts. À Washington, le chef du renseignement américain James Clapper a indiqué aujourd'hui qu'il n'y avait pas de signe pour l'instant qu'un acte terroriste était à l'origine du crash.
En Irak, le Parlement a adopté une mesure limitant les pouvoirs du Premier ministre dans la mise en place de réformes au sein de l'administration. Il devra désormais obtenir au préalable l'aval des législateurs. La décision prise ce lundi ne vise pas directement l'actuel chef du gouvernement Haider al-Abadi, précise-t-on au Parlement. L'objectif, soutiennent les députés, c'est la séparation des pouvoirs.
Toute agression ou provocation militaire de la part du régime nord-coréen ne sera pas tolérée. C'est l'avertissement lancé aujourd'hui par le secrétaire américain à la défense, Ash Carter, et son homologue sud-coréen, Han Ming-kwoo. Le patron du Pentagone est à Séoul pour un examen annuel de l'alliance militaire existant depuis près de 50 ans entre les États-Unis et la Corée du Sud. Il devait se rendre ce soir en Malaisie pour une réunion des ministres de la défense de l'Asie du Sud-Est.
5 personnes tuées dans des fusillades ont été retrouvées aujourd'hui à Rio de Janeiro, a annoncé la radio brésilienne CBN. 2 autres personnes ont été tuées dans le centre de Rio à l'aube. Lundi, la sécurité est l'une des principales inquiétudes alors que Rio accueillera en août prochain les Jeux Olympiques.
L'administration Obama a décidé en faveur de la libération anticipée de 6000 prisonniers au niveau fédéral. Aujourd'hui, le président américain annonce des mesures visant à faciliter leur réintégration dans la société.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Ouverture de la conférence économique africaine 2015 ce lundi à Kinshasa, sous le thème de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Plus de 450 délégués africains et internationaux ont rallié la capitale congolaise pour y participer, rapporte Financial Afrique. Soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque africaine de développement, l'événement aborde les enjeux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Quelques 2000 participants se réuniront au Palais des Nations à Genève du 16 au 18 novembre pour le 4e forum de l'ONU sur les entreprises et les droits humains 2015. Ce forum est le plus grand rassemblement au monde en la matière. Son objectif est de trouver des moyens pour prévenir et combattre les violations des droits humains dans la sphère économique en conformité avec les principes directeurs des Nations Unies. Le prix de l'essence super en Côte d'Ivoire a enregistré une nouvelle baisse ce lundi. Le litre est passé de 650 à 630 francs CFA, a constaté l'APA, rappelant qu'il avait baissé de 30 francs CFA le mois dernier. Le litre du gasoil, qui a également enregistré une baisse en octobre, reste inchangé à 570 francs CFA.
La Minute Éco, merci Nathalie.
L'actualité sportive ce soir, c'est avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, Tour du Faso 2015, Salifou Yerbanga remporte la 4e étape.
Oui, le Burkinabé Salifou Yerbanga a remporté ce lundi donc la 4e étape de la 28e édition du Tour du Faso couru entre Ouagadougou, la capitale, et Kourougou dans le centre-ouest du pays. Une distance de 97,5 km que Salifou Yerbanga a remporté en 2h29,04 au micro de Salif Kabore, notre correspondant à Ouagadougou, il explique avoir suivi les conseils de son capitaine.
J'ai parlé avec mon capitaine Aziz Nikema, il m'a dit, pour conserver la course, tu vas contrôler pour suivre la SAP. En tout cas, je suis contrôlé, je suis suivi la SAP. À la dernière minute, 25 km, nous SAP 2, Suisse 1, moi, en tout cas, j'ai roulé 35 secondes jusqu'à arriver. En tout cas, je suis gagné. Ici, il a sens, je félicite tous les coureurs, les drapeaux de Burkina Faso, je félicite les fédérations des Burkinais.
Alors, comment ça se passe au classement général?
Eh bien, au classement général, on a toujours le Marocain, donc Moutaker,
Moutaker
El Taïd Ibrahim Karima, qui est. Comment?
Oui, voilà. Il est leader depuis la 2e étape, je crois.
Oui, il est leader donc depuis la 2e étape. Il garde le maillot jaune et il est suivi par son compatriote, donc un autre Marocain qui conserve donc la tête du Tour du Faso.
Finale allée de la Ligue des champions d'Afrique, le tout-puissant Mazembe, près du rêve, Bagassi.
Oui, les Corbeaux ont pris une sérieuse option sur le titre avec cette victoire en déplacement à Alger sur l'USM Alger. 2-1, les choses s'annoncent donc compliquées pour l'USMA, l'un des clubs les plus populaires d'Algérie avec 6 titres de champion qui dispute donc sa première finale continentale après les échecs de 97 et 2003.
Qui sera le joueur africain de l'année? La réponse avec Bagassi Koura ce soir dans Sporama. Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, Morgane. Bujumbura.
Au Burundi, la violence ne fait que s'intensifier entre la police et les groupes armés dans certains quartiers de la capitale et dans certaines localités en province. Ce lundi, le président Pierre Nkurunziza a lancé un ultimatum de 5 jours à l'endroit de ceux qui combattent la police pour qu'ils remettent leurs armes. C'est le 3e du genre en moins de 3 mois. Innocent Mouezi, directeur général de la radio-télévision Renaissance, joint à Kigali au Rwanda, estime que le Burundi est déjà en pleine guerre civile.
Le Burundi est depuis plusieurs mois dans la guerre civile, puisque le comportement de ceux qui justement devraient être la source de la stabilité, la source de la paix sociale, sont la source des problèmes. Si la police, les services de renseignement, que ce soit qui enlèvent, torturent, ça veut dire que le pays n'a pratiquement plus d'État. Donc, il y a un sérieux problème. Qu'est-ce qui peut arrêter la violence? Difficile à dire. Manifestement, l'armée peut encore jouer un rôle extrêmement positif, puisque son comportement jusque-là a été largement correct. Je ne vois que l'armée, en termes d'institutions burundaises, sinon, ça veut dire que c'est la région qui s'implique, ça veut dire que c'est l'Afrique, que c'est la communauté internationale qui s'implique. Et même là, ce qui se passe vraiment est devenu tellement grave, a dépassé tellement toutes les limites. Le message du président du Sénat est une calamité. Il appelle pratiquement à l'extermination des gens, comme on l'avait vu dans le pays voisin en 1994. Je pense qu'il n'y a plus de limites du tout à ce que certains responsables d'État burundais sont en train de faire. C'est gravissime.
L'Union africaine veut envoyer une mission d'enquête. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider?
Les missions d'enquête ne vont pas arrêter les gens qui sont en train de tuer leurs frères et leurs sœurs. Ils ne vont pas empêcher les gens de continuer à torturer comme on le voit. Donc les missions d'enquête sont importantes certainement pour établir des faits, pour poursuivre les gens quand ce sera possible. Mais les missions d'enquête ne les vont pas arrêter. La folie qui semble guider certains responsables de l'État burundais aujourd'hui.
Ce lundi, le président Nkurunziza a encore lancé un autre ultimatum de 5 jours pour ceux qui s'attaquent à la police de remettre les armes. C'est un troisième ultimatum. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va arrêter ce qui se passe?
Vous savez, les gens qui ont pris les armes ne les prennent pas par plaisir. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette police-là, à certains éléments de cette police-là, à certains éléments des services de renseignement? Quand les gens enlèvent, torturent, tuent de manière aussi odieuse que ce qu'on voit depuis 2 mois, qu'est-ce que vous pouvez faire encore d'autre que de vous défendre? Ce n'est plus une police d'État, ce n'est plus une police nationale. C'est devenu un gang de criminels. C'est aussi simple que ça. Maintenant, contre ces gens, vous faites quoi? Vous leur confiez votre profil? C'est pas possible. Les gens ont pris les armes pour se défendre. Ce n'est pas un ultimatum qui leur fera changer d'avis.
Et il y a des gens qui se défendent. Est-ce qu'on peut dire que c'est la rébellion dont on a parlé depuis longtemps qui est déjà en action?
C'est évident. La rébellion commence le jour où les gens ne reconnaissent plus les prérogatives des gens en uniforme comme représentants de l'État parce que ceux-ci ne se comportent pas comme les représentants de l'État, mais que se comportent comme des criminels parmi tant d'autres criminels. Donc la rébellion est là depuis bien longtemps, c'est évident.
Voilà, c'était donc Innocent Mouezi, joint à Kigali au Rwanda par Eric Manirakiza.
En République centrafricaine, l'Autorité nationale des élections, ANE, a entamé depuis jeudi les consultations en vue de l'élaboration d'un nouveau chronogramme électoral. Mais pour certains partis politiques de l'opposition, les élections ne pourront pas avoir lieu avant fin décembre 2015. Les explications de Joseph Bendunga, président du parti Mderek, au micro de Félix Yepassis Zembro.
Devant la triste réalité que nous a produite l'Autorité nationale des élections, nous nous sommes retrouvés devant un chronogramme anachronique.
C'est-à-dire?
L'exemple le plus frappant, les candidats aux élections présidentielles et aux élections législatives battront campagne pendant 9 jours. Ce n'est que 2 jours avant la fin de la campagne que la liste définitive candidat sera affichée. Il y a le chevauchement des dates. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur 1 300 000 fiches, c'est à peu près 1 million de fiches qui ont été traitées. Dès que les drafts qui seront affichés seront corrigés, à partir de ce moment, l'ANE enverra ce draft corrigé-là, qui devient la liste électorale définitive, à Copenhague, le centre d'édition de la liste électorale définitive et des cartes d'électeurs. Tous ces documents seront renvoyés à Bangui et les cartes d'électeurs seront distribuées aux électeurs. Est-ce que cette opération, qui n'est qu'à son début de commencement, en 2 mois, nous allons le réaliser pour qu'il puisse avoir élection? C'est ce document-là, sa finalisation, qui permettra au gouvernement, à la chef de l'État de la transition, de convoquer le corps électoral. Au jour d'aujourd'hui, à peu près 4 mois après le début du recensement électoral, nous ne sommes qu'à la phase d'enrôlement seulement. Alors, est-ce que les élections se tiendront avant fin 2015? Je dis non. C'est ainsi que toutes les parties prenantes à cette concertation, du cadre de concertation, ont rejeté en bloc la proposition de l'autorité nationale. Nous demandons à l'autorité nationale des élections de revoir sa copie et de nous proposer un chronogramme, un calendrier électoral qui puisse répondre aux besoins des élections en République centrafricaine.
C'était Joseph Bendunga, président du MDEREC, un parti politique centrafricain.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Quatre Camerounaises militant contre le mariage précoce et forcé sont à Washington pour participer au Girls Summit DC 2015, organisé le 5 novembre par la International Women's Health Coalition. Dans la région de l'extrême nord, au Cameroun, 70% des filles sont mariées de force par leurs parents avant leurs 18 ans. Danejo Adidja était adolescente quand on l'a donnée en mariage à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, à Maroua. Elle a fui ce mariage et aujourd'hui, elle est présidente de l'APAD, l'Association pour la promotion de l'autonomie et des droits de la jeune fille et de la femme. Son témoignage au micro de Nathalie Barge.
En tant que victime de mariage précoce, j'ai été un jour annoncée par mes parents que je devrais aller au mariage. Et je ne m'attendais pas. Et donc, je ne pouvais pas aussi opposer à mes parents. Mais je n'avais pas de choix, puisque je ne voyais pas comment je pouvais être la première à refuser, à opposer à son père. Tout l'entourage, tous mes camarades, on leur annonce le mariage. Elles devraient partir et elles sont parties. Mais je ne voulais pas de ce mariage. Et donc, je suis partie. Et j'ai partagé l'idée avec une amie. Et d'où une femme m'est venue en aide, une femme qui travaillait au centre-ville de femmes, qui est l'ALVF de l'extrême nord, qui m'a orientée vers l'ALVF, le centre-ville de femmes. Et de là, ils m'ont donné des conseils et ils ont fait appel aux parents. Et c'est à partir de là que j'ai échappé à ce mariage.
Donc vos parents ont accepté le fait de ne pas vous marier?
Ils n'ont pas accepté. C'est avec l'aide de l'ALVF.
Ils ont été convaincus?
Ils ont été convaincus, mais ce n'était pas facile parce que j'ai été chassée d'abord de la maison.
Ah bon?
Oui.
Donc vous êtes allée vous réfugier là-bas?
Oui, chez la dame qui m'a accompagnée à l'ALVF.
Et aujourd'hui, vous avez repris contact avec vos parents ou pas?
J'ai repris contact avec mes parents et ils sont très contents aussi avec moi.
Ils sont fiers de vous?
Ils sont très fiers de moi aujourd'hui.
Donc ils font la promotion également?
Également contre le mariage précoce et forcé.
Donc après, vous vous êtes lancée dans cette aventure, dans cette expérience, créer cette association?
Oui, on a créé cette association en 2001 avec les autres victimes qui partaient aussi dénoncer des mariages, partaient chercher de l'aide à l'ALVF. On a créé l'Association pour la promotion de l'autonomie et des droits de la jeune fille. Et là, notre public cible, c'était les survivants des mariages précoces et forcés et les chefs traditionnels. Parce que moi, personnellement, d'abord, je servais de l'exemple à mes camarades qui étaient à l'âge d'aller en mariage, selon les parents. Et donc, en tant que victime, je leur donnais mon propre témoignage. Et donc, avec mon témoignage et mon combat, qui sont en train de voir pour éliminer les mariages précoces et forcés.
Danejo Adidja, présidente de l'APAD au Cameroun, dont tous les membres sont des victimes de mariages forcés.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Ici à Washington, le nouveau président de la Chambre des représentants estime que les républicains qui contrôlent les deux chambres du Congrès ont été trop timides et Paul Ryan s'est engagé à promouvoir un agenda plus courageux pour résoudre les problèmes de la nation. M. Ryan a dit également hier dans des interviews télévisées qu'il ne faisait pas confiance au président Barack Obama quant à une réforme de la politique américaine d'immigration. Précision d'Idrissa Seloudia.
À 45 ans, Paul Ryan est le plus jeune président de la Chambre basse depuis plus de 100 ans. Son élection à une majorité écrasante de ses pairs représente selon lui un jour nouveau. Et pour marquer cette rupture avec le passé, il se propose de réaliser quatre objectifs.
D'abord, remettre la Chambre au travail comme elle est censée le faire, comme le voulaient les pères fondateurs, ouvrir le processus. Deuxièmement, je pense qu'il est très important de trouver un terrain commun là où c'est possible pour faire avancer les intérêts de la nation et de le faire sans devoir compromettre nos principes. Troisièmement, nous devons être un parti d'opposition plus efficace. Nous n'aimons pas où nous nous dirigeons en tant que pays, nous n'aimons pas où nous amène le président. Donc, nous devons être un parti d'opposition plus efficace. Mais, plus important encore, je pense que quatrièmement, que cela signifie que nous devons être un parti de proposition. Nous n'aimons pas ce qui se passe. Nous devons au peuple de cette nation, à nos électeurs, un agenda courageux, clair, spécifique et une vision pour ce que nous voulons faire différemment.
Pour le nouveau président de la Chambre des représentants, quelques 46 millions d'Américains se débattent dans la pauvreté et la politique étrangère des États-Unis est, je cite, un désastre. Il a dit clairement qu'il ne permettra aucun examen d'un quelconque projet de réforme de l'immigration tant que le président Obama sera à la Maison-Blanche. Paul Ryan ne lui fait pas confiance dans ce domaine.
Il a essayé de passer par-dessus la tête du Congrès en prenant des décrets pour réécrire unilatéralement la loi. Le président ne légifère pas, le Congrès légifère. Donc, je ne pense pas que l'on ne devrait pas débattre de loi sur l'immigration avec un président qui n'inspire pas confiance à ce sujet. Si nous croyons et avons un consensus sur des choses telles que le renforcement de la sécurité à la frontière et à l'intérieur, pas de problème pour moi. Si nous croyons et avons un consensus sur des choses telles que le renforcement de la sécurité à la frontière et à l'intérieur, pas de problème pour moi.
Paul Ryan pense que le Congrès devait faire des propositions sur la réforme de la fiscalité et du système de santé, les moyens de s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et aussi de relancer l'économie. Paul Ryan, qui vient en seconde position après le vice-président en cas de vacance du pouvoir à la Maison-Blanche, dit avoir été élu pour unifier les républicains. Il compte le faire en menant au consensus plutôt que de l'imposer. Selon lui, les républicains se chamaillaient sur des questions de tactique parce qu'ils n'avaient pas une autre vision à proposer.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition à la mise en onde Lionel Keima, présentation Morgane Gaillac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation bien sûr sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.